Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Cynthia Kafka. Après avoir été professeure des écoles, Cynthia est devenue écrivaine. Son dernier livre, Pour qu'elle revienne, est sorti le 3 avril. Ses romans parlent de résilience, de chemin de vie et de la famille. Depuis toute petite, Cynthia rêve de devenir maîtresse d'école car elle aime raconter des histoires. Elle deviendra professeure des écoles pendant 7 ans, jusqu'au jour où elle plaque tout. Cynthia est frustrée de l'éducation nationale. Depuis toujours, Cynthia écrit. Elle a toujours une cinquantaine de romans en cours d'écriture qu'elle garde pour elle. Jusqu'au jour où elle ose dépasser son syndrome de l'imposteur et sortir son premier livre en auto-édition, La collectionneuse de ciel. Depuis, Cynthia a sorti plusieurs livres en maison d'édition, dont Je suis venue te dire, son premier grand succès, et plus récemment Pour qu'elle revienne, l'histoire de Margot qui n'a pas vu sa mère depuis 15 ans et qui la reconnaît à la télé et décide de partir à sa recherche. Alors avec Cynthia, on a évoqué sa carrière de prof et ses frustrations, comment elle trouve l'inspiration pour ses romans, pourquoi ses romans traitent tous de problèmes de famille, l'écriture comme thérapie et son avis sur l'auto-édition et les maisons d'édition. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cynthia. Bonjour Cynthia, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
Bonjour Clarie, merci beaucoup de m'accueillir.
Alors, est-ce que tu peux te présenter ?
Donc, je suis Cynthia Kafka, je vis en Dordogne depuis 7 ans maintenant, avant j'étais Picarde. J'ai le petit accent qui revient d'ailleurs de temps en temps. J'ai 44 ans, 2 enfants, un mari, un labrador et une vie assez remplie.
Et alors, tu t'es reconvertie. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, c'est une reconversion au long cours. Il y a eu quand même plein de petites choses pour en arriver à ça. Mais aujourd'hui, je suis autrice de romans.
Alors, c'est dingue parce qu'aujourd'hui, on enregistre et ton dernier livre vient de sortir ce matin. Donc, c'est assez rigolo parce que comment tu te sens à la sortie de ton livre là, qui vient juste de sortir ce matin ?
Ah ben, c'est toujours un moment un peu particulier parce que bon, on sait que les gens vont pas tous le lire aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui la possibilité pour les lecteurs de tout ce roman, de le découvrir. Et donc, c'est un peu... pour les auteurs, ce moment où on le laisse partir et ça y est, on n'échangera plus rien du tout, quoi. Donc, c'est excitant et rempli d'appréhension aussi.
Et comment ça se passe en général ? T'as pas mal de messages ce jour-là ?
Oui, il y a beaucoup, alors beaucoup sur les réseaux sociaux, les chroniqueurs ou les lecteurs qui partagent en story, qui me souhaitent une bonne journée de sortie, qui souhaitent un beau moment à ce livre et qui nous saute une longue vie. Et donc il y a toujours plein de partages. Il y a des libraires qui m'écrivent, il y a les lecteurs qui le trouvent en librairie, qui envoient des photos. Donc c'est vrai que c'est une journée un peu en dehors du temps.
Donc ton dernier livre qui vient de sortir s'appelle Pour qu'elle revienne. Donc on va en parler un petit peu plus tard. Et avant d'être écrivaine, tu étais prof des écoles. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'est venu ? Est-ce que c'était une vocation ?
Ah oui, alors j'avais 4 ou 5 ans et je disais que quand je serai grande, je serai maîtresse, écrivain et patineuse artistique. Voilà, c'était le grand rêve de ma vie. Je tiens 10 minutes sur des patins, il ne faut pas que j'en fasse trop. Donc, il y en avait un qui s'est essoufflé assez rapidement de lui-même parce qu'il faut quand même avoir des rêves, mais il faut aussi qu'ils soient objectifs. Et voilà, donc j'ai toujours écrit et en même temps, j'ai toujours été une maîtresse d'école, mais les gens se souviennent avec... traumatisme quand je les alignais et que je leur faisais faire des dictées et puis après je leur racontais des histoires. Donc il y avait la bonne maîtresse et la mauvaise maîtresse et puis quelque part un peu l'écrivain qui arrivait déjà aussi.
Oui, c'est super mignon parce qu'en préparant les questions du podcast, j'ai vu sur ton compte Instagram, donc tu es suivie par 23 000 abonnés hein, sur Instagram pour les auditeurs qui voudraient aller te suivre. Donc, c'est Cynthia Kafka. Et donc, tu faisais ta présentation, puis c'était assez mignon parce qu'il y avait une maîtresse d'école qui t'avait dit « J'espère que tu deviendras écrivain ».
Ah oui, tu es allé chercher loin. Madame Gilio en CM2, ouais.
Ouais, parce que c'est elle qui t'a poussé un peu à être écrivain. Comment ça s'est fait?
Non, je pense que j'ai retrouvé des cahiers entiers de poésie. J'ai trouvé des poésies un peu, j'avais l'impression qu'elles étaient bonnes alors quand je les écrivais, mais finalement pas tant que ça. J'ai écrit mon premier conte de fées quand j'avais 11 ans. Enfin voilà, c'était un conte en plusieurs chapitres avec plein de personnages, beaucoup trop de personnages. Mais j'avais toujours ça. Et surtout, en fait, j'adorais les rédactions à l'école. Je pense que c'est de là que ça venait, c'est-à-dire que ben, les élèves qui n'aimaient pas faire la rédaction, ils disaient, est-ce que tu peux me la faire? Donc je faisais, sur la même consigne, je faisais plusieurs rédactions différentes. Et donc, il y avait ça. Et puis, j'adorais. En fait, en classe de l'âge, j'écrivais mes lettres pour les parents des autres. Donc, du coup, j'avais déjà ce truc d'écrire et d'adorer ça que ça me fasse du bien, quoi.
Et alors, tu étais prof des écoles, donc c'était quel niveau? C'était niveau primaire?
Alors, j'ai un peu tout parce que j'étais, pour ceux qui connaissent, brigade, remplacement long. Voilà, j'étais remplaçante. J'ai jamais eu du coup de poste à moi. J'ai jamais eu ce temps-là. Et donc j'ai fait de la maternelle jusqu'au collège puisque j'ai travaillé aussi en collège avec des non-voyants et malvoyants. Donc j'ai dû apprendre le braille pour faire un remplacement. Donc voilà, j'ai un petit peu tout eu. Et les dernières années, surtout de la maternelle.
Et t'as fait ça pendant combien de temps?
Je crois que j'étais enseignante pendant 7 ans. Ouais. 8 ans peut-être même.
Et alors, est-ce que c'était comme tu l'imaginais?
Non. C'est un peu le truc rigolo dans les préjugés. En fait, tout le monde a côtoyé l'école, tout le monde a ses enfants qui côtoient l'école. Et donc, on a un peu une image. Voilà, on est assis sur un fauteuil et on voit un peu ce qui se passe sur la scène, sauf que dans les coulisses, c'est pas tout à fait comme je l'imaginais. Et je pense que. Assez rapidement, d'ailleurs, même avant de devenir enseignante, j'ai été dit, je suis devenue enseignante assez tard, parce que j'avais commencé l'IUFM et j'avais fait des stages. À l'époque, je m'étais dit, oh, je pense qu'il faut que je voie autre chose avant de devenir artiste parce que on peut pas passer des bancs de l'école derrière le bureau de l'enseignante. Ça me semblait, il me semblait important d'avoir vécu quelque chose, d'avoir ne serait-ce que faire un CV, eu des boulots différents, et ça me semblait déjà
Un peu de
important à l'époque.
maturité, tu dirais
Ouais.
aussi.
Et puis prendre aussi un peu de distance et pas, voilà, pas passer de l'étudiante à l'enseignante, quoi. Donc,
Voir un peu au-delà de l'école.
ouais, c'est ça. Et il y avait ça, et je m'étais toujours dit, sur les premiers stages où j'avais rencontré un peu des enseignants, et je m'étais toujours dit, le jour où je me sens blasée, où ce métier me fait souffrir, je ne veux pas que ce soit les élèves qui en pâtissent. Donc, ce jour-là, j'arrêterai. J'ai tenu promesse à moi-même, donc je suis assez contente de ça.
Qu'est-ce que tu as trouvé dur? C'était le côté beaucoup de préparation
Non,
pour
du
préparer
tout.
tes
Alors,
cours.
la préparation, j'étais enseignante. Alors après, voilà, je n'ai pas fait 20 ans d'enseignement, peut-être que ça aurait été différent, mais j'adorais la préparation, surtout en maternelle. Je passais des soirées jusqu'à 2 h du mat à découper, plastifier, faire des jeux, créer des choses pour la classe. J'adorais les relations avec les enfants et tout ce qu'ils apportaient au quotidien. J'adorais faire classe. Avec les parents, c'était pas toujours évident, mais bon, ça se passait généralement plutôt bien. Qui a été compliqué pour moi, ça a été vraiment les relations avec l'éducation nationale qui nous demande de différencier et en même temps pour nous d'être un peu dans un moule. Et puis je suis tombée sur une enseignante, enfin une directrice d'école avec qui ça a été très très compliqué. J'ai eu une année vraiment difficile et là je me suis dit pour ma santé mentale et physique, parce que ça m'atteignait aussi physiquement, il faut que je m'écarte un petit peu, que je prenne un peu de distance par rapport à ça. Et là, je suis passée un peu de l'autre côté en étant, enfin voilà, j'étais secrétaire du comité exécutif en charge de la réussite scolaire de plusieurs écoles. Et donc, je travaillais avec les inspecteurs de circonscription, etc. Et là, je me suis retrouvée avec que des gars en cravate. Qui décidait de ce qui se passait en classe alors qu'il n'y avait pas mis les pieds depuis des années. Et je pense que c'est vraiment le truc qui m'a fait, OK, en fait, on peut tout donner, derrière, ça suit pas. Et voilà, je me suis retrouvée à un moment où j'avais besoin de prendre une pause. Et je me suis dit, bon, bah, je prends cette pause et j'y reviendrai peut-être après. Et c'était en 2015, et nous sommes en 2024 et je ne suis pas revenue.
T'as été frustrée un peu?
Oui. Je pense, et je l'ai toujours. La dernière fois, je suis retombée, quelqu'un m'avait demandé un article, j'avais écrit un article sur le blog sur mes dernières années d'enseignement et pourquoi j'avais quitté l'éducation nationale. Et je me suis dit, bon, ça fait longtemps et j'ai un peu oublié ça. Et je me rends compte qu'il y a toujours un peu ce... donc bon. Alors après, il y a les premières années, le jour de la rentrée, je me disais, oh là là, je loupe la rentrée. C'était vraiment une journée tellement particulière et un peu comme un jour de sortie pour un roman. Il y a toute cette excitation mêlée d'appréhension. Bon, alors les premières années, mes enfants étaient jeunes et donc j'accompagnais les instituts étaient contents parce qu'ils avaient une instit qui les accompagnait en tant que parents accompagnateurs. Donc ça, c'était plutôt chouette. Donc j'ai gardé un peu et puis voilà, pris de la distance vraiment petit à petit.
Et comment tu l'as vécu? Parce que est-ce que tu as eu l'impression un peu d'abandonner ta mission? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de profs des écoles qui comme ça, c'est vraiment tellement un métier passion et vocation que quand ils lâchent prise un peu, ils passent à autre chose, ils se sentent un petit peu coupables presque d'abandonner les élèves, d'abandonner un peu tout ce système qui fonctionne pas très bien. Est-ce que toi, tu as eu un petit peu ce sentiment-là?
À aucun moment. Parce que si je l'ai fait, c'est que j'étais moi pas bien, je pouvais pas, quand on est moins bien, c'est difficile, même si on laisse tout le perso et tout l'affect devant la porte de l'école, ça me semble plus difficile d'être bien avec des élèves aussi. Donc pour moi, c'était, voilà, je pars pour pas leur infliger mon mal-être aussi.
Alors, on a beaucoup d'auditeurs qui rêvent d'être prof. Tu penses que c'est fait pour qui?
C'est hyper compliqué. Moi, j'étais persuadée et je suis toujours persuadée qu'aujourd'hui, que si j'avais trouvé la bonne classe, si j'avais pu rester, par exemple, il y a eu plusieurs écoles où ça se passait hyper bien avec toute l'équipe, avec les parents. Et je pense que peut-être si j'avais eu un poste et que j'étais restée dans une école, aujourd'hui, je serais encore étudiante et qu'on ne ferait pas ce podcast. Mais je pense que c'est fait parce que quand déjà on a une vocation, quand on. Il n'y a pas forcément, il faut avoir une envie, il faut avoir ce truc qui nous donne le sourire le matin en se réveillant. Donc, il y a des gens qui essayent, il y a des gens qui abandonnent, et puis il y a des gens qui s'épanouissent. J'ai encore plein d'amis enseignants qui depuis 20 ans, s'épanouissent chaque matin, en sourire, en allant en classe.
Oui, c'est vrai que le problème qui revient souvent, c'est le côté on est affecté à une classe, ça change beaucoup au début, on met du temps en fait à se créer sa routine un peu au final. Et donc, quand tu t'es arrêtée, tu t'es d'abord lancée comme maman blogueuse?
Je l'étais déjà en parallèle. Quand mon fils est né, j'ai pris un congé parental puisqu'il n'y avait pas de classe en crèche. Donc, c'était la seule solution. Au début, j'étais là, non, je ne veux pas quitter la classe, je ne veux pas quitter la classe. Et puis, je me suis très vite ennuyée comme prévu. Et donc, j'ai cherché un petit peu sur Internet s'il y avait des témoignages de maman, enfin voilà, discuter un petit peu. Et je suis tombée sur une ruche, parce qu'il y avait quand même déjà pas mal c'était le tout début, mais il y en avait déjà quelques-uns au blog de maman. Et donc, j'ai ouvert dans la foulée un blog parental, pour essayer de me déculpabiliser moi et de déculpabiliser les autres en même temps.
Et alors, comment ça s'est passé? Ça a très vite pris? Ça t'a plu?
Ouais, ça très rapidement. J'ai eu cette chance, je pense, d'arriver à un moment donné où les blogs étaient. Commençaient leur expansion, ça a très rapidement pris. J'habitais en Picardie à l'époque, donc j'allais à Paris assez facilement. Et assez rapidement, il y a eu des événements créés par des marques qui voulaient qu'on parle d'eux, évidemment, sur Internet. Et puis très rapidement, voilà, ça a pris de l'ampleur. On m'a fait des propositions et on m'a proposé de gagner de l'argent pour écrire sur le blog. Et ça, c'était un truc que je me souviens, la première fois, c'était un article sponsorisé pour la Smartbox que je ne conseille à personne aujourd'hui, mais à l'époque, je trouvais ça formidable. Et il fallait que j'écrive un article, je faisais gagner une Smartbox et moi, je gagnais 30 euros. Et je me souviens de moi dansant autour de la table basse en disant, mais tu te rends compte, je fais ce que j'aime et je suis payée, je vais faire des cadeaux et je suis payée 30 euros, quoi. Aujourd'hui, la police des blogs dirait, non, surtout pas. Mais voilà, à l'époque, c'était ça. Et puis, petit à petit, ça a pris. de plus en plus d'ampleur, de plus en plus, j'ai vécu des choses absolument incroyables grâce au blog. Et puis, je pense que c'est aussi ce qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ça, c'est plutôt chouette.
Ouais, ça t'a donné envie d'écrire des articles plus longs, en fait, un petit peu.
J'ai jamais vraiment arrêté d'écrire, parce que j'écrivais déjà plein de débuts de romans, et j'avais toujours une cinquantaine en brouillon, que je commençais, que j'arrêtais parce que j'avais plus l'inspiration, parce que je me disais que c'était finalement pas si bien, ou parce que voilà. Et donc, je pense que bah, le blog, ça me permettait d'écrire des choses courtes, rapides, et qui trouvaient un écho immédiat. C'est-à-dire que, voilà, j'écrivais, je cliquais sur publier, et là, les gens y avaient accès et commentaient. Et ça, c'est hyper formateur parce que bah, voilà, on apprend petit à petit, OK, là ça a marché, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui s'est passé, ouais, il faut que je soigne la conclusion, il faut que je soigne l'introduction, il faut qu'il y ait une chute un peu rigolote. Et je pense que ça m'a aussi aidé, et ça m'a aidé à accepter aussi de faire lire mes textes. Donc ça, c'était hyper important.
Oui, c'est un peu le truc des artistes, ça. On a peur du regard du public.
C'est ça.
Alors, donc, tu as sorti ton premier roman en auto-édition, donc, qui s'appelait La collectionneuse de ciel.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que, voilà, entre sortir son premier roman en plus en auto-édition, l'écrire totalement en se fixant sur un roman, comment ça s'est passé dans ta tête à ce moment-là?
Alors, en fait, j'avais toujours cette envie d'écrire des romans qui étaient là, qui prenaient toujours plus de place. Et il y avait toujours ce truc de dire, oui, mais moi, j'écris sur des blogs, j'écris des articles pour des magazines parentaux, j'écris sur des sites internet. Je suis pas une autrice de romans. Et il y avait eu avant ça, quelqu'un rencontré par les blogs qui m'avait proposé d'écrire un guide pratique sur l'école maternelle. Donc, qui était destiné aux parents. Et donc, c'était vraiment ce trait d'union entre ma vie d'enseignante et ma vie de blogueuse, de rédactrice. Et donc, j'avais écrit celui-ci, ça avait bien fonctionné. Donc, on m'a proposé d'en écrire un autre, puis un autre, puis un autre. Je suis arrivée à peu près à 7 ou 8 guides parentaux, puis de développement personnel. Et un jour, je me suis dit, en fait, tu arrives à écrire des guides assez rapidement, ça se passe hyper bien avec les éditrices, avec les correctrices. Pourquoi ne pas te lancer dans le roman? Puis il y avait toujours cette appréhension. Et un jour, j'avais participé aussi à des concours de nouvelles où j'avais été assez bien placée, j'avais des éditrices qui m'avaient un peu donné cette confiance. Et un jour, je suis sur Internet et je découvre qu'il y a un concours organisé par une maison d'édition et qu'en fait, il faut rendre le roman, la deadline, c'était 10 jours plus tard. Donc, je suis évidemment à la bourre. Et là, je me dis, bien sûr que je n'ai pas gagné ce concours. Bien sûr si j'ai réussi à faire quelque chose, ça serait imparfait. Mais mon objectif, c'était, dans 10 jours, avant la fin de la deadline, j'envoie un roman, commencé et fini. Et donc, j'ai prévenu ma famille que pendant 10 jours, ils allaient devoir se débrouiller sans moi, parce que voilà, et je me suis couché à 3 h du matin ou 4 h du matin, levé à 7 h du mat, et pendant 10 jours, j'ai écrit un roman. Alors, complètement imparfait, très court, je me souviens, à la fin, il fallait que ça fasse 250 000 signes, espace compris. Et du coup, j'avais écrit, par exemple, 17, je l'avais écrit en chiffres, et je l'aurais écrit en lettres pour que ça fasse le bon nombre de signes. C'est du grand n'importe quoi. Mais à 23 h 50, j'ai envoyé le roman. J'ai écrit le mot fin, il était en gros à peu près comme ça. Parce que voilà, je me disais, évidemment, il n'a pas gagné. Donc,
C'était un défi, quoi, de te dire, je vais le faire.
c'était un vrai défi. Et puis ensuite, j'avais pas le droit d'en faire quoi que ce soit en attendant les résultats. Donc là, j'ai pris le temps de le relire, de le corriger, de l'étoffer, de le modifier. Enfin voilà, en fait, j'avais envoyé un premier jet. Et ensuite, j'ai pris le temps d'en faire un second, puis un troisième. Et quand les résultats sont tombés, et qu'effectivement, sans grande surprise, je sais même pas si les gens ont lu plus de 10e page, c'était qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je l'envoie à des maisons d'édition? Et moi, j'ai cette angoisse, en fait, de l'attente. C'est-à-dire que l'envoyer à une maison d'édition, ça voulait dire que j'aurais réactualisé pendant 6 mois ma boîte mail toutes les 5 minutes. Donc, c'était trop compliqué. Enfin, voilà, cette attente qui m'aurait vraiment pris du temps et mentalement aussi. Et je ne sais plus qui m'a dit, pourquoi tu ne l'auto-édites pas? Et je me suis dit, bon, bah, ok, je vais l'auto-éditer. Donc, je l'ai mis à l'époque, c'était seulement sur Amazon, hein, sans aucune.
Je savais pas que ça existait déjà l'auto-édition sur Amazon. En fait, ça fait assez longtemps, hein.
Ouais, ça existait déjà depuis bien quelques années avant. Et donc, voilà, c'était, je l'ai mis là, sans aucune mise en page, sans du tout. Et je me suis dit, ma mère voulait absolument que je l'auto-édite. Et j'ai dit, ok, bah, je vais le. Il sera à commander le 25 décembre et ça sera son cadeau de Noël. Et donc voilà, et là ma grand-mère m'a dit oui, mais ça c'est sur un truc sur l'internet, moi je ne pourrais pas le lire. Et donc j'ai fait une espèce de mise en page, voilà, et j'ai dit bon, bah écoute, c'est bon, je t'ai fait un livre, enfin j'ai fait un livre et puis comme ça je pourrais te le donner et toi tu l'auras aussi. Et en fait, la magie des réseaux sociaux, c'est que j'avais déjà une communauté assez active et qui me suivait. Et que quand je l'ai mis en précommande, j'ai eu 150 précommandes qui sont arrivées. Et là, je me suis dit, waouh, ok,
T'as eu
je vais le
peur
reprendre.
aussi?
Et oui, que ma mère l'achète, que mes potes l'achètent, c'était bien, mais que 150 personnes que je ne connaissais pas l'achètent, ça devenait quelque chose de. Alors, il n'était pas, voilà, il était hyper pas cher. J'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur qui me tenait tout entière. Et donc, je l'ai repris, je l'ai relu, et il reste encore. Aujourd'hui, je ferais les choses complètement différemment. Et en même temps, c'était génial parce qu'il y avait cette insouciance, cette spontanéité. Et puis voilà, donc ça, alors il y a des gens qui l'ont pas aimé, il y a des gens qui l'ont adoré. Et en attendant, j'ai toujours tendance à dire que ce roman, moi, je l'aimais pas, mais que les gens me faisaient l'aimer, en fait, ça, par leur retour, etc. Je me suis dit, OK, c'est bon, je peux le faire. Je l'ai fait une fois, ça veut dire que je peux le refaire. Et donc, j'avais un roman depuis 4 ans, en brouillon. Et je me suis dit, bah, c'est le moment de le prendre vraiment, celui-là. Et celui-ci, ce sera mon vrai roman, mon vrai premier roman. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
Ce sont des super conseils pour les auditeurs qui veulent se lancer dans n'importe quel projet. En fait, faut se dire, bon, ça va pas être le projet de ma vie, mais je commence en fait.
C'est vraiment ça. C'est vrai. Je me dis vraiment que ce roman, c'est mon roman coup de pied aux fesses. C'est mon roman. Ok, c'est bon, tu peux, tu vois, t'es capable et la prochaine fois, ça sera mieux et celle d'après, peut-être encore mieux. Et tu te planteras aussi, mais il se passera les choses, quoi.
Et alors, juste après ta sortie, je suis venue te dire, donc ça a été ton premier grand succès, hein, si on peut dire.
Il est sorti en auto-édition et ça a été le livre que j'ai le moins vendu en auto-édition. Le gros, gros échec, alors que moi, j'y avais mis toute mon âme, toutes mes tripes, et il avait des très bons retours, de très jolies chroniques, mais il y avait très peu de gens qui l'achetaient. Donc, alors que le premier continuait à se vendre à la peine, alors que j'étais là, mais ok, les gars, c'est juste une histoire d'amour sans conséquence. Là, celui-là, c'est important. Et en fait, il passait vraiment pas grand-chose. J'ai sorti un troisième roman édité qui s'est beaucoup vendu. Et ce second roman, bah, il était toujours là, à essayer de vivoter. Mais une éditrice est tombée dessus, elle l'a lu. Et donc, bah, quelques mois plus tard, elle m'a appelé en me disant, je suis venue lire, je l'ai adoré, et je vais le publier. Est-ce que on peut en discuter ensemble? Donc voilà, ça a été le moins vendu en auto-édition et celui qui aujourd'hui fonctionne le plus en roman publié.
Ah oui, c'est incroyable comme histoire. Donc du coup, comment ça s'est passé avec elle? Tu l'as remaniée un petit peu?
Alors, ouais, avec elle, premier échange, elle me dit, est-ce que tu voudrais le retravailler? Je lui dis, mais oui, mille fois oui. Je pense qu'aujourd'hui, on me donne l'occasion de retravailler chacun de mes romans. Il y a toujours quelque chose à refaire, à revoir, et ça pourrait être sans fin. Et je lui dis, bah, moi, j'aimerais bien, par exemple, accentuer un tout petit peu la psychologie d'un personnage secondaire. Et donc, en fait, elle me dit, bah, moi, voilà ce que j'aimerais les pistes de retravail, et elle me parle et ça résonne en moi, et je dis, OK, ben on y va en fait. Et donc voilà, donc on l'a retravaillé un peu, on a revu quelques chapitres, on a approfondi, et on l'a publié en octobre 2021.
Et comment ça se passe après au niveau du deal un petit peu financier? Donc, quand tu es en auto-édition, bien sûr, tous les revenus sont pour toi.
Quasiment, oui.
Quand tu es avec une maison d'édition, comment ça se passe?
Alors, c'est plus du tout, je gagnais très bien ma vie en étant auto-édité, c'est quand même plus compliqué en étant publié. On touche un avaloir et en gros, on touche un pourcentage, c'est-à-dire entre 8 et 12% du prix du livre, quoi. Donc, moins les charges, etc. Donc, à peu près 1,50 euro, 1,60 € par livre grand format vendu. Donc, il faut en vendre un peu plus pour mieux gagner sa vie. Mais il est aussi mieux distribué, il est aussi voilà, mieux, plus vu sur les réseaux, plus vu en librairie. Donc, ça peut aussi contrebalancer.
Oui, alors c'était la question que je voulais te poser. On peut vivre du métier d'autrice? Parce que c'est vrai que quand on voit, tu vois, qu'on ne gagne pas beaucoup sur chaque livre, qu'il faut en vendre beaucoup. Bon, dans les faits, je sais très bien qu'il y a beaucoup d'auteurs qui en vivent, mais est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'il faut cumuler plusieurs différentes activités? Comment toi, tu t'organises?
Alors moi, j'en suis à un stade où oui, je pourrais en vivre si je suis pas trop gourmande et que je vais pas partir aux Seychelles en vacances. Mais pour l'instant, je suis correctrice depuis 4 ans, 3 ans, 4 ans, comme ça. Et pour l'instant, j'aime avoir ce double emploi qui me permet d'être sûre que ça va. Après, je pense que plus on a de romans publiés, plus enfin voilà, s'ils continuent à se vendre, on touche toujours un petit peu après en droit d'auteur. Donc voilà, ça permet de créer des choses au fur et à mesure.
T'es correctrice pour d'autres livres en fait de la maison d'édition?
Alors pas de ma maison d'édition. Je voudrais pas du tout corriger mes collègues s'il reste des coquilles. Vraiment, je voudrais pas qu'ils m'en veuillent s'il reste des coquilles dans un roman. Ça serait assez compliqué. Mais oui, pour d'autres maisons d'édition, pour des auteurs auto-édités, pour des sites internet, pour une médium, enfin voilà, j'ai plein de clients différents, je corrige plein de choses différentes, je peux autant corriger des indices que des horoscopes, donc c'est une ouverture aussi différente et j'aime beaucoup ça.
Alors, donc tes livres, ils sont quand même assez sérieux, hein. C'est ce que donc toi, c'est rigolo parce que t'es assez rigolote, pleine de joie de vivre, et c'est des sujets très profonds, donc assez sur la famille, le chemin de vie. Donc il y avait déjà eu, je suis venue te dire sur les traumas et puis les relations père-fille, et pour qu'elles reviennent, c'est un petit peu le même type de sujet, mais c'est par rapport à sa mère. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du dernier roman qui est sorti aujourd'hui? Et puis aussi, tu peux nous expliquer un peu où tu trouves ton inspiration?
Alors pour qu'elle revienne, c'est l'histoire d'une adolescente dont la mère disparaît la veille de ses 15 ans. Elle se rend compte au fur et à mesure que c'était une disparition volontaire. Et donc on l'a tous début 15 ans plus tôt et on se retrouve 15 ans plus tard où elle n'a jamais eu de nouvelles de sa mère et un jour elle est devant la télévision. Il y a un reportage sur le petit village de Corse et là elle voit un portrait et elle est sûre que c'est le portrait de sa mère. Et elle décide que, alors qu'elle est hyper casanière, qu'elle a toujours un peu besoin de repères et que c'est la disparition de sa mère a un peu créé ça chez elle, elle décide de s'envoler pour la Corse et d'aller à la recherche de sa mère ou au moins des réponses aux questions qu'elle se pose depuis 15 ans. Et oui, on est sur la famille. Je pense, comme tous les autres romans, on est vraiment sur les relations familiales et sur des grandes questions que je me pose.
Alors, est-ce que toi, c'est un moyen de thérapie pour toi de d'écrire sur ces sujets?
Alors non, le premier, c'est l'histoire d'un père qui est en soins palliatifs et de sa fille qui vient lâcher un peu toute sa rancœur. Et celui-là, je l'ai écrit alors que j'étais dans la chambre de soins palliatifs où était mon père. Donc oui, il y avait, je pense, voilà, c'était un peu une thérapie. C'était un peu, même si j'ai attendu 4 ans entre mes premiers mots dans cette chambre de soins palliatifs et l'écriture, parce que je voulais pas que ce soit moi, je voulais pas que ce soit mon père, je voulais vraiment qu'il y ait mettre de la distance et créer un vrai personnage à qui je donnerais des émotions. Mais voilà, après, ma mère n'a jamais disparu volontairement de sa vie, donc pour qu'elle revienne, c'est vraiment des questions que je me suis posées et voilà, et j'ai tiré un petit peu sur la pelote de laine et tout ce qui en est tombé.
Et alors, où tu trouves l'inspiration, ce que tu vois, comment t'as un peu tes histoires qui te viennent?
Ouais, je pense qu'il y a toujours une partie de moi, de choses que j'ai pu vivre dans l'enfance, dans l'adolescence, de choses que j'ai vues, que j'ai entendues, qui se sont déroulées autour de moi. Et puis, c'est vraiment, des fois, il y a des questions qui, ouais, quand tu es juste avant de dormir, tu te dis, ah ouais, mais ok, tu te poses des grandes questions existentielles. Et moi, j'essaye d'aller encore plus loin, de faire des essais, et qu'est-ce qui peut se passer après. Et voilà, c'est comme ça que ça devient un roman.
Et alors, pourquoi la famille, c'est aussi important pour toi? Donc, c'est toujours la famille? Parce que toi, la famille, c'est important pour toi en tant que personne ou c'est ce que tu as envie de transmettre?
Je pense que déjà, pour moi, c'est très important et je pense qu'en réalité, n'importe quelle vie, que ce soit à cause d'une absence de quelqu'un de la famille, que ce soit à cause d'une surprotection de quelqu'un de la famille, en fait, c'est aussi tout ce qui nous crée en tant qu'individu commence par ce qui s'est passé dans notre famille. Donc, je pense que c'est important pour moi comme c'est important pour tout le monde, en fait.
C'est vrai qu'en général, c'est des sujets assez, assez universels. Hein. Tout le monde a des problèmes de famille.
C'est ça.
Donc, ça parle à tout le monde, je pense.
C'est ça, et on s'en rend compte en salon quand les gens viennent voir, mais ce livre a résonné parce que, et donc on a encore, et puis là, il y a matière à écrire de nouveaux romans et c'est génial. Et voilà, c'est quelque chose qui nous est commun à tous, quelque chose sans lequel on ne pourrait pas vivre. Puis des fois, on décide que sa famille est toxique et qu'on va s'en éloigner, ou on décide rien parce que notre famille, elle est là et qu'on en a besoin et ça fait partie de toute notre vie, en fait.
Et est-ce que tu as déjà eu des membres de ta famille qui se sont reconnus dans tes livres?
Alors, sur le tout premier, enfin, je suis venue te dire, j'ai ce souvenir de ma grand-mère. J'arrive chez elle elle venait de finir. Je suis venue te dire, et elle m'a dit, mais ma petite Cynthia, je ne savais pas que tu avais vécu tout ça, c'est terrible. Je lui ai dit, non, c'est pas moi, c'est vraiment. Il y a des choses voilà, que j'ai vécues, il y a des choses que j'ai romancées, il y a des choses que j'ai inventées complètement. Donc, non, il n'y a rien de. C'est pas moi et il n'y a aucun personnage. Donc, non, je pense pas. Alors, ma mère rigole beaucoup. Je m'entends très, très bien avec ma maman. Et en fait, dans le premier roman, la mère est morte. Dans le deuxième roman, la mère est une vipère. Dans le troisième roman, la mère est morte aussi. Et dans le dernier roman, elle disparaît volontairement. Elle me dit, t'as un problème avec moi, tu veux qu'on en parle? Mais voilà, après, je lui dis peut-être qu'on s'entend trop et que j'ai besoin vraiment d'avoir des personnages complètement aux antipodes de toi ou moi pour...
Ouais, tu peux pas faire de maman, quoi, en
Non.
fait.
C'est compliqué. Donc, quand je l'ai fait disparaître, c'est beaucoup plus facile.
C'est vrai que souvent on se dit que les auteurs ils s'inspirent de leur vie privée, donc j'imagine que tu dois souvent avoir ce type de réflexion, c'est pour ça que je te pose la question.
De toute façon, on a toujours une part de nous, une part de ce que nos proches ont vécu. Il y a toujours ça dans nos romans parce que c'est de toute façon pour mettre les émotions, etc. Mais voilà, après, il faut aussi réussir à prendre cette distance et à créer vraiment des personnages. Et je pense que très rapidement, quand on commence à écrire, ce sont les personnages qu'on a imaginés qui prennent leur place et qui ressentent leurs propres émotions et qui vivent leur propre histoire. Même si ça semble toujours un peu mystique quand je dis ça.
Et alors, à qui s'adressent tes livres et puis par lequel on commence si on veut lire un de tes livres?
Bah, le dernier, il sort aujourd'hui, il faut en parler. Donc, commençons par celui-ci.
Donc, pour qu'elles reviennent.
Voilà, après, il n'y a pas d'ordre particulier puisqu'il n'y a aucune suite et aucune histoire qui se suit. Donc, on commence par celui qu'on trouve en librairie et qui résonne. Quatrième peut-être va résonner en nous. Alors, ça s'adresse à plein de gens complètement différents. Le week-end dernier, par exemple, j'étais en salon et c'est une ado de 12 ans qui est venue, qui avait déjà lu un de mes romans, qui voulait en lire un autre. Enfin, voilà, on a de l'adolescent
À ta grand-mère.
à ma grand-mère. Enfin, voilà, il y a vraiment... C'est un peu vraiment pour tout le monde, des hommes, des femmes, même s'il y a quand même plus de femmes qui lisent mes histoires. Mais il n'y a pas une cible en particulier. Je pense qu'il y a certains de mes romans qui vont résonner, il y en a d'autres qui résonneront un petit peu moins. Et c'est comme pour tout. Je pense que chaque roman a un moment pour arriver dans une vie. Et des fois, c'est le bon moment. Et des fois, il va rester sur la pile à lire pendant des années. Et puis, le moment où on va le sortir, ça sera le bon.
Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, j'avais cette tendance de. J'adorais conseiller des livres à mes proches. Je leur mettais même dans la main, quoi. Je disais, quand ils venaient chez moi, je disais, ah, mais prends ce livre, il faut absolument que tu le lises. J'ai réalisé récemment qu'en fait, c'est toi qui dois aller vers le livre, en fait. Si on te le donne, tu vas le poser, tu vas pas le lire. Il y a vraiment une rencontre qui doit se faire entre la personne et le livre. Je sais pas ce que tu en penses.
Ouais. Ah ouais, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, il y a souvent des gens qui viennent en salon et qui me disent, le premier, je suis venue te dire, on parle quand même de soins palliatifs, on parle de relations très conflictuelles avec un père, et il y a beaucoup de femmes, en tout cas, que ça rebute un petit peu. et qu'ils le prennent parce que elles ressentent que ça peut peut-être les aider ou qu'elles pourront peut-être s'identifier, ou elles le laissent pendant assez longtemps sans y toucher. Et j'ai souvent des femmes qui viennent et qui me disent, pendant ça, des actrices qui me disent, mais ah, je suis tellement déçue de pas l'avoir ouvert plus tôt. Ça y est, je l'ai lu et maintenant je me dis que j'aurais dû le lire avant. En fait, non, peut-être que c'était là le moment où il fallait le lire, et c'est comme ça. Donc, ouais, je suis persuadée qu'on a des moments pour les romans.
C'est assez incroyable parce que tu as écrit beaucoup de livres hein, depuis que tu t'es lancée. Moi, je suis assez impressionnée par ton rythme d'écriture. Et donc, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel?
De continuer comme ça. Alors, j'ai pas une ambition démesurée. J'ai pas envie de vendre, de devenir. Alors, oui, évidemment, si je vends plus de livres, c'est chouette parce que ça veut dire que je touche plus de personnes, que je rencontre plus de monde, qu'il y a plus de gens qui aiment ce que j'écris. Et ça, c'est génial. Je tiens pas à vendre des milliards de romans. En fait, ce que je veux vraiment, c'est continuer à aimer ce que je fais, à me lever le matin, à me dire génial, je vais écrire un livre, à continuer à avoir ce besoin d'écrire et à continuer à rencontrer des lecteurs et à échanger avec eux et à vivre toutes ces, parce que pour moi, c'est vraiment des chouettes aventures, ces rencontres aussi que créent les romans. Et ça, voilà, je me souhaite en tout cas de jamais être blasée de l'écriture.
Et comment ça s'est passé la première fois que tu as rencontré tes lecteurs comme ça? J'imagine quand tu fais ta première séance de dédicace, ça doit être assez impressionnant.
Bah déjà, il n'y a pas grand monde. Il faut réussir à apprivoiser, à appréhender la solitude parce que la première fois, je crois que ouais, j'étais un peu seule. Alors, encore une fois, heureusement, c'est vrai que moi, j'ai cette chance d'avoir les réseaux sociaux et d'avoir des gens qui me suivent. On me suit des quatre coins de la France et un peu plus. Donc, du coup, forcément, je ne pouvais pas les rassembler dans la librairie de mon patelin, quoi. C'était compliqué. Et donc, il y a toujours ce moment où on attend et on se dit peut-être que je vais avoir personne, peut-être que je vais avoir. Et ça va être long, et ça va être très, très long. Et j'ai eu des dédicaces même après où j'ai eu cinq personnes sur les 3 heures de dédicaces et où là, le temps s'étire. Très longuement. Mais voilà, après, il y a rapidement ce. Et puis en plus, moi, je ne sais pas aller au-delà des gens et leur dire, oh, regardez, j'écris, est-ce que vous pourriez, ou est-ce que vous voulez que je vous parle de mon livre? Je ne sais pas du tout faire. Mais rapidement, il y a eu les premiers lecteurs qui sont arrivés et les premiers échanges. Et ça, voilà, ça fait oublier les longues heures d'attente toute seule avant.
En fait, le truc, c'est que je pense qu'on est obligé de passer par là avant d'avoir plein de monde. C'est un petit peu comme ton livre, tu es obligé de passer par un livre un petit peu inachevé, mais enfin, inachevé à ton goût, mais terminé quand même. Tu es obligé de passer par ça pour après avoir beaucoup de monde et on ne peut pas passer de 0 à 1000 comme
Et
ça.
pour pouvoir l'apprécier aussi, je pense. C'est vrai que j'aime beaucoup regarder dans le rétroviseur et voir ce qui s'est passé ces dernières années et me dire, voilà, des fois, les choses, elles vont pas assez vite, on est impatient, on aimerait déjà être à la suite, alors que, bah, regarde derrière tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est produit et c'est incroyable et voilà, c'est génial. Et peut-être que, alors, il y a toujours ce truc et peut-être que demain, ça va s'arrêter, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est incroyable.
Oui, de se dire que t'es déjà là où la Cynthia d'avant, elle voulait être.
Ouais, c'est ça. Ouais. De se dire la petite fille qui écrivait des poèmes, elle se dirait waouh, c'est incroyable ce qui se passe là. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Et t'aimerais bien justement écrire un livre sur ta reconversion?
Alors c'est assez compliqué. Je crois que c'est difficile encore pour moi peut-être de mettre vraiment de la distance. Et régulièrement, il y a un personnage qui revient et qui est professeur des écoles dans ma tête. Et régulièrement, je dis attends, va un peu ailleurs. Tu reviendras dans quelques temps. Donc, je pense que oui, je pense que ça viendra, mais il faut que moi je sois prête et à accueillir ce personnage-là aussi.
C'est assez marrant comment t'en parles. On dirait que les personnages ont leur
Ouais.
existence propre un petit peu.
Je me souviens d'un roman où, parce que mon mari n'est pas du tout dans le domaine de l'édition, et donc des fois ça le dépasse un petit peu. Et c'est vrai que quand je suis en phase d'écriture, je peux écrire jusqu'à 10 heures sans me rendre compte. Et souvent, je lui dis, j'arrive dans un quart d'heure. Et à 4 heures du mat, on est un quart d'heure plus tard. Oui, c'est ça. Et donc là, je lui dis, bon, c'est bon, j'ai quasiment terminé le roman, là, en tout cas le premier jet. Je dis, j'en ai encore pour une autre semaine ou deux, je pense. Et au bout de 3 semaines, il me dit, on n'avait pas pour une semaine ou deux. Je lui dis, je sais, Les personnages, ils veulent pas que ça s'arrête. Et il m'a dit, mon Dieu, t'es complètement taré. Et j'avais vraiment l'impression que c'est eux qui ont encore des choses. En fait, c'est comme une grande pièce de théâtre d'écrire un roman, sauf qu'on se met dans la peau de chacun des personnages. Et voilà, je crois que chacun a encore des choses à dire, ou il y a toujours ce truc où finalement, une fois qu'on est dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est lui qui nous dicte un petit peu ce qu'on doit faire, quoi.
Est-ce que tu penses aussi que pour toi, c'est important de toucher un maximum de personnes et donc, en ayant tous ces personnages avec leur identité propre, tu vas pouvoir aussi toucher un maximum de lecteurs?
Je suis pas persuadée parce que moi, je m'identifie quand je suis une très grande lectrice et je m'identifie souvent à des personnages qui n'ont absolument rien à voir avec moi. Donc, je pense que c'est pas parce que je vais faire le personnage d'une artiste qui se reconvertit professionnellement que je vais forcément toucher une artiste qui se reconvertit. Je pense qu'on peut avoir dans le caractère, je pense qu'on peut trouver, on peut s'identifier par rapport à la vie qu'il y a autour. Je pense que c'est pas obligé de faire des personnages qui ressemblent aux gens pour que les gens s'y identifient. En revanche, je pense que c'est important d'avoir des personnages qui pourraient vivre avec nous dans le monde réel.
Oui, qui ont les problèmes qu'on peut
C'est
rencontrer en
ça,
fait.
ouais.
Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
De continuer et d'y croire.
De jamais douter. Quand tu commences un roman, faut quand même y croire pour se dire je vais sortir 200 pages.
Alors après, il y a aussi beaucoup qui me disent de chasser ce syndrome de l'imposteur qui finalement fait partie de moi. Et je pense que les doutes font aussi partie. C'est aussi parce que je doute que je donne encore plus et que je travaille et que je veux toujours approfondir. Mais voilà, d'y croire toujours, en fait, de se dire que même s'il y a des échecs, c'est pas grave, la fois suivante, on y arrivera.
Quel conseil tu donnerais pour justement arriver à se lancer? Quand tu vois, on a justement ce syndrome de l'imposteur, que peut-être son entourage nous dit un petit peu, oh, mais pourquoi tu as envie de faire ça? Voilà. Comment tu fais pour te dire, allez, cette fois, je le fais parce que moi, j'en ai vraiment envie?
Ben déjà, il faut être bien entouré. C'est vrai que moi, jamais personne m'a dit, oh là là, t'es sûr, ça marchera peut-être pas. En fait, les citoyens ont toujours cru plus que moi en moi. Donc ça, c'est hyper important. Mais voilà, de se dire, de toute façon, on a qu'une vie. Si on n'ose pas ce qu'on a au plus profond de soi, si on n'ose pas le sortir maintenant, ben, après, il sera trop tard. On peut échouer, on peut se relever d'un échec, mais est-ce qu'on est vraiment complètement debout quand on n'a pas essayé tout ce qu'on avait envie d'essayer, quoi? C'est la phrase philosophique du jour.
Non, c'est vrai, c'est parce que finalement, on n'est pas vraiment, oui, on n'est pas vraiment en train de vivre si on le fait pas.
Mais en tout cas, si ça nous tient vraiment à cœur, si on l'a vraiment au fond des tripes, si on a vraiment envie, se trouver des excuses, sachez que voilà, qu'on avance peut-être pas comme on le voudrait, on peut être heureux et continuer à faire plein de choses, mais il y aura peut-être toujours un peu ce regret. Vaut-il mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets? Telle est la question.
Un grand merci Cynthia. Donc ton livre, donc il est sorti aujourd'hui. Donc c'est Pour qu'elle revienne. Je mettrai les liens pour les auditeurs de tes réseaux sociaux et puis aussi de tes livres. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé.
Bah, merci beaucoup. C'était très chouette. Merci.
Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S @oserlareconversion.com.